Alors, toujours en compagnie de Maître Jean-François Gay, c'est la chronique Prendre la route. Alors, Jean-François, nous avons commencé, en fait, tu as commencé, avant la pause, à nous parler de cette nouvelle Acura, une nouvelle génération de l'Acura MDX. Alors, on était dans les pour et les contre, si je puis dire. Alors, tu as commencé à nous parler de l'habitacle qui semble confortable, mais c'est pas un véhicule très sportif.
Non, c'est sûr, parce qu'on s'entend que c'est un Acura. Et pour plusieurs, quand on pense à Acura, on pense à un véhicule au comportement sportif. Mais je vous dirais, au cours des dernières années, Acura a perdu un peu cette touche-là pour offrir davantage des véhicules là, luxueux, confortables. Donc, c'est le cas du MDX. Puis quand je parle du MDX, là, on parle des quatre versions qui sont offertes, c'est-à-dire de base, tech, e-spec et élite. Par contre, comme je disais tantôt, il y a un modèle avec un moteur turbo qui s'en vient, qui va avoir des roues de 21 pouces, des pneus de 21 pouces, bien entendu. Donc, ce modèle-là devrait être plus sportif. Mais dans ce cas-ci, ben, comme tu disais, là, c'est un habitacle confortable, c'est vaste, c'est plus grand qu'autrefois. Silence de roulement absolu. C'est un véhicule aussi qui, étant donné qu'il est plus bas, le centre de gravité est plus bas que la génération précédente. Et donc, c'est un véhicule qui colle quand même bien à la route, là, avec les imperfections de la chaussée, dans une courbe, mettons, avec des petits nids de poule, tout ça. C'est un véhicule qui ne va pas se déporter. Il va toujours bien garder là sa trajectoire. Par contre, les petits côtés, là, suspension est un petit peu mollassonne, si tu me permets de prendre cette expression-là. On aimerait peut-être un petit peu plus de rigidité. Une direction, peut-être, on aimerait mieux avoir une direction un petit peu plus ferme aussi, un petit peu plus rigide. Mais malgré tout ça, là, si tu regardes les rivaux de ce véhicule-là, ben, c'est sûr, on a le X5, BMW, mais c'est beaucoup plus cher. Le Audi Q7 est beaucoup plus cher. Si on regarde le Volvo XC90, pour ma part, je préfère le comportement routier du MDX que celui du Volvo. Et aussi, si on regarde le Lincoln Aviator, qui est beaucoup plus gros, plus lourd, moins agile. Donc,
parfait. Un petit mot en terminant peut-être sur ce modèle à propos du fameux pavé tactile. Ça, tu nous en parles souvent. Des fois, c'est assez simple, mais pas tout le temps.
Non, c'est vrai. Puis celui-là, je te dirais pas c'est l'un des pires, mais je te dirais c'est pas un des meilleurs. Ça, c'est sûr et certain. C'est très, tu sais, quand on parle d'un pavé tactile, c'est comme un pavé sur un ordinateur portable, admettons.
Un iPad, mettons.
Puis vous devez effleurer le petit tapis avec les doigts. Puis souvent, c'est trop rapide. Puis on n'est pas capable de mettre le doigt dessus dans le sens que, mettons, tu veux sélectionner une commande de ventilation ou tu veux sélectionner le système audio, un poste de radio, tu sais, quelque chose comme ça. Et c'est imprécis.
Mais fais comme moi, je ne change pas de poste.
Ben c'est ça, je reste toujours au 98.
Ben oui, c'est sûr.
Mais des fois, on va écouter le 93.
Non, mais sérieusement, parce que, vous savez, il y a beaucoup de distractions hein, quand on conduit un véhicule. Puis là, t'as vu la promotion à la télé, une campagne de sensibilisation. Là. Quand vous conduisez, pensez à conduire. T'sais, laissez-vous pas distraire par toutes sortes de choses autour. Alors, si on a un pavé tactile qui est exécrable, comme tu dis, puis qui est compliqué, ben c'est un élément de distraction qui peut causer des problèmes éventuellement. Là. C'est ça qui est... Je pense que les gouvernements aussi... Ben, les gouvernements. Pas trop se fier sur les gouvernements. Je pense que c'est peut-être d'abord la responsabilité des fabricants de voitures, de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour qu'on puisse garder un œil sur la route. Là.
Oui, mais tu vois, tantôt... On a parmi nos essais de ce soir la Subaru Legacy. Puis pourquoi j'en parle? Parce qu'à ma grande surprise, la Legacy que j'avais à l'essai, c'est une berline en passant. Il y a un détecteur, je ne le savais pas, mais il y a une espèce de système qui vérifie mon champ de vision. C'est-à-dire que cette semaine, quand je conduisais la Legacy, si, admettons, j'étais distrait par, je ne sais pas moi, par quelque chose sur la rue, puis mes yeux quittaient... le champ de vision vers l'avant, là. Mais il y avait un petit bip-bip qui me disait, là, je regardais mon cadran, ouais, c'est quoi? Puis ça me disait, ne quittez pas les yeux de la route. Donc, il y a un système optique, là, un capteur qui vérifie où je regarde. Donc, c'est la même chose, mettons, je faisais un arrêt obligatoire, un stop, je regardais à gauche, à droite, puis là, je commençais à avancer, puis je regardais trop longtemps à droite pour X raisons. mais le système me rappelait à l'ordre, parce que j'ai fait le test. Donc, c'est la même chose, quelqu'un qui veut, admettons, texter au volant, quitter les yeux de la route, bien, Subaru, avec ce système-là, va vous dire « Hey, arrête de texter, là, puis regarde qu'est-ce qui se passe en avant. »
Oui. Bien, il y a des systèmes qui sont bons, d'autres un petit peu moins bons. Moi aussi, sur ma voiture, j'ai un système qui, bon, que j'ai enlevé parce que je trouvais ça un peu agaçant. Quand on a tendance à aller vers la gauche ou vers la droite, ça nous remet dans le droit chemin. Mais à un moment donné, on conduit, puis on a l'impression qu'on s'ostine avec le volant, qu'il va aller trop à gauche, toi, tu veux venir à droite, puis il y a comme une pression, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui.
Il y a une pression dans le volant qui devient un peu agaçante, là.
Oui, mais ça, je te dirais, c'est bon de l'enlever, puis je te comprends. Même des fois, tu roules sur l'autoroute, tu veux activer ton clignotant, tu ne mets pas ton clignotant de gauche pour faire un dépassement, puis quand tu viens passer sa ligne pointillée, mais là, le volant va résister.
Ben oui, c'est ça.
Par contre, ça peut être bon, mais quelqu'un qui s'endort, mettons...
Peut-être, oui, la conduite de nuit.
C'est ça,
ouais,
la crie, parce que comme ça, si tu t'endors au volant, ben, le véhicule va te ramener dans le droit chemin, si jamais là tu t'en vas vers l'accotement. Là.
Excellent. Ben, tu as commencé à nous parler un aspect de la Subaru Legacy. Donc, tu l'as essayé. C'est une berline intermédiaire. Et comme on en voit beaucoup, d'ailleurs, qui est relativement accessible aussi en passant, là.
Bien, certainement. Ça commence à 27 000 $ La semaine dernière, on a parlé de la Mazda 6. Hein, puis, c'est ça, on est en train de faire le tour là, des voitures intermédiaires sur le marché. Parce que, disons qu'actuellement, les constructeurs automobiles, quand on regarde les flottes de presse, là, vous avez beaucoup de ces véhicules-là qui sont disponibles. Donc, on prend la peine de les essayer. Et concernant la Legacy, bien, c'est un véhicule qui a été refondu en 2020. On parle souvent de la Subaru Outback. Hein? La Subaru Outback est une familiale tout-terrain. La Legacy, c'est le même châssis, c'est la même mécanique. Par contre, la garde au sol est un peu moins élevée, c'est bien entendu, pour donner justement un comportement un petit peu plus sportif. Cela dit, ben, côté motorisation, c'est intéressant parce que vous avez le choix entre deux moteurs. Vous avez le moteur de base 4 cylindres, 2,5 litres, 182 chevaux. Depuis 2020, maintenant, vous avez un moteur turbo. 2,4 litres, 260 chevaux, quand même élevé. Ce moteur-là a été inauguré dans le gros Subaru Ascent, qui est un gros VUS. Là, vous l'avez dans l'Outback, vous l'avez dans la Legacy, la GT en passant. Mais Jacques, vous dirais, moi, que le 260 chevaux, j'étais un peu surpris, là. Parce que automatiquement, c'est une version GT, vous avez le 4 cylindres de 260 chevaux turbo.
Mais, surpris positivement ou négativement?
Ben, je trouvais que ça manquait un peu de puissance, moi.
Ah.
Parce que je me disais, là, j'ai possiblement un moteur atmosphérique, pas de turbo. À un moment donné, ben non, toutes les GT ont le moteur turbo, c'est pas une option, ça vient de série. Donc, c'est sûr qu'en convient pour démarrer, hein, c'est des boîtes CVT maintenant, c'est plus des boîtes automatiques. Fait que des fois, c'est un petit peu lent quand on vient pour démarrer, donc on vient pour décoller. Par contre, c'est sûr que si tu veux dépasser sur l'autoroute, tu as un dépassement à faire ou tu es dans une voie de service, tu veux embarquer sur l'autoroute de façon sécuritaire, si tu accélères, tu pèses sur le gaz, comme on dit, ben là, ça se déplace. Mais c'était une transmission qui était un petit peu hésitante.
Bon, on n'est pas si pressé que ça.
Oui, c'est vrai. Il faut faire attention.
OK. Si on regarde les pour et les contre, alors tu as parlé tout à l'heure du tableau de bord à écran tactile facile à utiliser. Ça, c'est réglé. Moi, j'avoue que la nuit, quand je voyage, mettons, ben, j'aime ça voir en avant. J'aime ça avoir des phares qui éclairent. Bon, dans le cas de la Subaru Legacy, là, tu dis que les phares sont un peu sont trop puissants. Ça peut agacer les véhicules que l'on croise.
Ben oui. Parce que, vous voyez, là, au départ, je vais vous raconter un peu ma vie, dans le sens que quand j'ai lu la Legacy...
Pas trop, là.
Mais je suis allé faire un tour là, dans un magasin suédois où on vend des meubles à assembler pour ne pas faire de publicité.
Ok, je suis Bruy Martineau.
Oui, c'est ça. Alors, le coffre, en passant, c'est un coffre qui est quand même assez volumineux.
Mm-hmm.
Et l'ouverture du coffre est très haute. C'est habituellement, les berlines, là, vous avez un petit coffre étroit hein, pour côté design, mais là, c'est un gros coffre carré. Vous ouvrez le couvercle, puis il y a de la place. Donc, j'ai rempli le coffre arrière, et puis, bon. Donc, c'était assez lourd. Puis là, bien, tout le monde me demandait les lumières. Tu sais, là, les conducteurs en sens inverse, là, ils faisaient des appels de phare, comme on dit.
Mm-hmm.
Là, je dis, c'est parce que le coffre est trop lourd, Le coffre est abaissé, donc mes phares sont déréglés, puis j'aveugle tout le monde. À un moment donné, j'ai enlevé les objets du coffre et on me demandait toujours des appels de phares. Mmh. Fait que là, c'est 2 plus 2 font 2, fait 4, donc j'en ai conclu que les phares aveuglaient les conducteurs en sens inverse. C'est sûr qu'on a un bon champ de vision, mais peut-être que Subaru aurait peut-être des petits ajustements à faire pour abaisser les phares là, pour que ça soit moins éblouissant là, pour les autres.
Comme on dit, quand on met les lumières sur les hautes, entre guillemets,
ouais.
Ça doit être assez impressionnant.
C'est assez impressionnant. Donc, quand que tu t'en viens dans un petit chemin de campagne, puis là, souvent, il y en a un qui il pense que tu es sur les hautes. Fait que là, il va te sacrer haute en plein visage la dernière seconde. Fait que là, tu te revanches, hein, tu mets grosse à ton tour. Là, il doit faire le saut.
Oui, ça, j'imagine, oui. Effectivement.
Oui, oui, oui.
Parlait du prix de l'essence tout à l'heure qui ne cesse d'augmenter. La bonne nouvelle pour ce genre de véhicule, c'est que la consommation n'est pas très élevée. Enfin, un peu. Pas trop.
Bien, c'est une consommation qui n'est pas très élevée par rapport aux VUS de taille comparable. Je pense que souvent, on dit tout le monde achète des VUS, mais c'est sûr qu'avec une berline, vous allez sauver de l'essence. Par contre, je vous dirais que Subaru, par rapport, moi, je ne sais pas, moi, si on pense à une Mazda 6 ou à une Toyota Camry avec un 4 cylindres de base, c'est sûr que la Legacy va consommer plus. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est une traction intégrale à prise constante.
Ouais.
Souvent, les tractions intégrales, maintenant, hein, dans certains cas, vous allez avoir des roues motrices avant, puis les roues arrière vont s'activer seulement quand les roues avant patinent. Mais dans le cas de Subaru, c'est toujours 50-50 ou 40-60. La répartition là, du couple entre les roues avant et arrière.
C'est bien fait, c'est efficace.
Ouais.
Excellent. Alors voilà pour la Subaru Legacy. Très bien. La semaine prochaine, on pourra peut-être parler de la Land Rover Defender, qui n'est pas donnée entre toi et moi et la boîte à beurre.
Non,
mais en tout cas, on en reparlera. Si vous avez des questions pour Jean-François, n'hésitez pas après la pause. Jean-François sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à téléphoner.